Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La crise migratoire et le Brexit au menu du sommet européen de Salzbourg en Autriche. Deux dossiers symptomatiques de la montée des populismes en Europe. Dans un instant, nous retrouverons notre envoyé spécial Quentin Dickinson. La Russie n'est pas complètement perdue pour la démocratie. La commission électorale russe recommande d'annuler l'élection d'un gouverneur pro-Poutine à Vladivostok, et cela en raison de fraudes massives. La correspondance de Claude Bruyot à Moscou. En France, Alexandre Benalla s'est montré plutôt à l'aise devant la commission d'enquête sénatoriale. Mais sur le fond, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre les sénateurs. Le reportage d'Antoine Marette. Invité de ce journal, Damien Lempereur, porte-parole de Debout la France. Nous évoquerons avec lui la stratégie d'union des droites du parti souverainiste en vue des prochaines échéances électorales. Theresa May s'est voulue inflexible en arrivant ce soir au sommet européen de Salzbourg. La première ministre britannique a expliqué que c'était aux Européens de faire évoluer leur position pour débloquer les négociations sur le Brexit. Un peu plus tôt, le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait invité Londres à retravailler ses propositions. Theresa May, qui a aussi exclu l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit. Ce soir, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent pour un dîner. Au menu, outre le Brexit, la crise migratoire, deux dossiers qui fracturent l'Union européenne entre populistes et européistes. On retrouve à Salzbourg l'un de nos envoyés spéciaux, Quentin Dickinson.
Le débat autour de la table du dîner ce soir se concentre d'abord sur la gestion des flux migratoires qui aura tout l'été durant empoisonné les relations entre capitales de l'UE et fait le lit des mouvements démagogues europhobes. Comme nombre de ceux-ci sont désormais au gouvernement de leur pays, l'avertissement du président du Conseil européen, Donald Tusk, qui dirige les travaux du sommet, prend toute sa valeur. « Si ceux qui veulent trouver une solution pérenne, dit-il, sont confrontés à ceux qui veulent simplement user du problème à des fins de politique intérieure, nous n'avancerons jamais. » Les éléments précis mais dispersés d'une politique européenne d'asile et d'immigration sélective existent bel et bien, le tout est de les réunir et de les faire accepter par tous. Les 28 aborderont aussi l'autre imbroglio majeur du moment, le Brexit, dont il est probable qu'ils se borneront à répéter leur soutien à leur négociateur en chef, Michel Barnier, et à fixer la date d'un sommet de la dernière chance à la mi-novembre à Bruxelles. Ici, on s'interroge, non sans ironie, sur le choix du lieu du dîner. Il s'agit d'un manège situé au pied de falaises vertigineuses et dont la façade a été reconstruite dans le plus pur style des années fascistes. Pour une Europe qui donne l'impression de tourner en rond sous plusieurs épées de Damoclès, c'est en effet une image un peu regrettable.
Quentin Dickinson, merci. Sur la question migratoire, la Hongrie de Viktor Orban n'en finit plus de raidir ses positions. Nouvelle illustration aujourd'hui à Genève avec cette déclaration du chef de la diplomatie hongroise. La Hongrie ne sera jamais un pays de migrants, a lancé Péter Szijjártó devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les Nations Unies ont multiplié les critiques ces dernières semaines contre la politique migratoire de Viktor Orban. Ce serait une première dans la Russie de Poutine. La commission électorale russe recommande d'annuler l'élection d'un gouverneur pro-Kremlin à Vladivostok en Extrême-Orient. Andrei Tarasenko s'était imposé de justesse alors que son adversaire, le communiste Andrei Ishchenko, était largement en tête après le dépouillement de la quasi-totalité des suffrages. La correspondance de Claude Bruyot à Moscou.
24 000 voix égarées dans 13 bureaux de vote, des électeurs forcés de se rendre aux urnes, des achats avérés de voix par des candidats et pour couronner le tout, des changements de données dans le report des résultats finaux. Le bilan de la commission d'enquête fédérale russe est désastreux. Dimanche soir, après le dépouillement de 95% des bulletins de vote, le gouverneur sortant, proche de Vladimir Poutine, était largement battu par son principal opposant communiste. Et lundi matin, il est finalement déclaré vainqueur, à la surprise générale. C'est tellement énorme que même le Kremlin a dû admettre qu'il faudra revoter. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser de problème, puisque Vladimir Poutine en personne avait adoubé son candidat avant le deuxième tour frauduleux en lui accordant audience en marge du forum économique de Vladivostok la semaine dernière. Et si l'annulation du scrutin se confirme ce jeudi, ce sera la première fois depuis 1999 et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine qu'un candidat soutenu par le Kremlin dans une élection au plus haut niveau régional voit sa victoire invalidée pour fraude. Une décision à même de ternir l'image du président russe quand son entourage essaie d'amortir le choc. L'annulation du scrutin de Vladivostok est sûrement décidée pour faire redescendre un peu la pression, car le candidat floué est communiste, et les communistes notamment restent à la pointe du mécontentement concernant la très impopulaire réforme des retraites, contre laquelle d'ailleurs ils appellent à nouveau à manifester samedi à Moscou. Mais ce qui peut paraître inquiétant tout de même, c'est que cette agitation se déroule à 7000 km de la capitale, alors que Vladimir Poutine avait tout fait ces derniers mois, justement pour resserrer les liens entre son pouvoir central et les régions.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture en Russie. Alexandre Benalla a fait profil bas ce matin devant la commission d'enquête sénatoriale. L'ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron a commencé par présenter ses excuses au président de la commission, Philippe Bas, qu'il avait traité de petit marquis la semaine dernière. Benalla a ensuite répondu à toutes les questions des sénateurs. Les faits pour lesquels il est mis en examen, les violences infligées à des manifestants du 1er mai à Paris, n'ont pas été abordées car ils relèvent de l'enquête judiciaire. Antoine Marette, vous avez assisté à l'audition d'Alexandre Benalla, qui n'a pas vraiment convaincu les sénateurs.
Effectivement, qu'ils soient de droite ou de gauche, les sénateurs ont fait part de leur frustration. Quant à ceux de La République En Marche, ils ont tout simplement boycotté l'audition. Parmi les questions sans réponse satisfaisante, le permis d'armes accordé à Alexandre Benalla, selon l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, cette arme n'était pas destinée à défendre le chef de l'État, mais à sa propre sécurité. Le sénateur LR François Grosdidier trouve la ficelle un peu grosse.
Quand on demande pourquoi l'arrêté de port d'armes signé par le préfet fait mention de sa mission de sécurité à l'Élysée, il nous dit que c'est pas lui qui l'a rédigé. Ce qui est très gênant, c'est qu'on se sente baladé, qu'on puisse nous asséner des contre-vérités qui sont contredites par les faits, comme ça sous serment.
Autre affirmation contredite par les faits, Alexandre Benalla prétend n'avoir été qu'un simple collaborateur d'Emmanuel Macron et pas son garde du corps. Le sénateur PS Rachid Temal n'en croit pas un mot.
Monsieur Benalla nous dit qu'il n'avait jamais assuré de fonction de sécurité alors qu'il a été embauché depuis le début parce qu'il avait des compétences manifestement. Là, il y a un souci. Je crois qu'il nous faut encore continuer les travaux sereinement et la commission, comme l'a dit le président Bas, fera son rapport et émettra des propositions, des préconisations, parce qu'on vise à assurer, améliorer la question de la sécurité du président de la République et de sécurité en général.
Et plusieurs journalistes qui ont suivi le candidat puis le chef d'État Emmanuel Macron en témoignent. Le rôle d'Alexandre Benalla ne se limitait pas à celui d'un simple collaborateur. Certains qui s'approchaient un peu trop près d'Emmanuel Macron ont pu le constater à leurs dépens.
Antoine Marette, merci. À noter que le couple molesté par Alexandre Benalla le 1er mai dernier à Paris a été entendu aujourd'hui par les juges d'instruction. Selon leur avocat, l'homme et la femme ont précisé les conditions dans lesquelles ils avaient été interpellés par Benalla. Nicolas Dupont-Aignan devrait dévoiler dimanche sa stratégie pour les élections européennes de mai prochain. Le président de Debout la France s'oriente vers une liste autonome, même si la question d'une éventuelle alliance avec le Rassemblement national de Marine Le Pen reste d'actualité. Invité de ce journal, Damien Lempereur, porte-parole de Debout la France. Bonsoir.
Bonsoir.
Damien Lempereur, une question d'actualité tout d'abord. Avez-vous été convaincu par les explications d'Alexandre Benalla devant les sénateurs ?
Pas réellement, c'est un peu la vérité si je mens. Je ne sais pas, vos auditeurs, quelle valeur ils peuvent encore accorder à la parole de M. Benalla, puisqu'il y a eu tellement de mensonges. On nous a expliqué qu'il était mis à pied, puis on a découvert qu'en fait, il était partout avec le président Macron pendant les 15 jours. On nous a dit qu'il était bagagiste. On a découvert qu'il avait réglé le timing de la descente des Champs-Élysées. Donc il y a eu, si vous voulez, tellement de contre-vérités que je ne suis pas sûr que maintenant les Français accordent une grande importance à ce que ce jeune homme dit. Pour autant, je l'ai trouvé dans les auditions assez emblématique, finalement, de ce pouvoir macronien. C'est quelqu'un indiscutablement d'intelligent, d'assez habile et certainement très manipulateur. Il a commencé son audition en s'excusant auprès du président Philippe Bas, en expliquant qu'il n'aurait pas dû l'attaquer personnellement puisqu'on ne s'attaque pas aux hommes. Bon, on ne s'attaque pas aux hommes, sauf apparemment à coups de matraque ou place de la contre-escarpe. Donc c'était, encore une fois, à mon avis, le ton était bien donné. Pour le reste, beaucoup de contradictions, beaucoup d'incompréhensions. On ne sait pas en réalité qui est M. Benalla et pourquoi il était dans ces fonctions-là.
Damien Lempereur, au niveau européen, la droite française à laquelle vous appartenez finalement est divisée sur le cas Orban. On a pu le constater au Parlement européen lors du vote sur les sanctions contre la Hongrie. Alors, quelle est votre position à Debout la France concernant le Premier ministre hongrois ?
Écoutez, nous nous réjouissons du réveil démocratique, ce qu'on appelle souvent populisme, ici ou là, et selon nous, simplement le réveil des démocraties. Et Orban, président élu, s'inscrit dans ce renouveau démocratique de peuples qui décident finalement de mettre à leur tête des gouvernements patriotes. Nous, nos députés Debout la France, y compris d'ailleurs au Parlement européen, n'ont bien sûr pas voté les sanctions contre Viktor Orban, qui sont totalement scandaleuses, puisque entre nous, d'ailleurs, l'Union européenne, qui sur l'Ukraine, par exemple, mais auparavant, y compris sur la Libye, qui n'a pas été irréprochable lorsqu'il s'agissait de mener des opérations étrangères, de créer du désordre et du chaos, je trouve que l'Union européenne est mal placée pour donner des leçons de valeur et de valeur démocratique à qui que ce soit, que ce soit à M. Orban ou à n'importe quel autre chef d'État européen. En revanche, ce que je veux souligner, c'est quand même la contradiction majeure dans laquelle est enfermé Laurent Wauquiez. Cet été, M. Wauquiez se rend pour être pris en photo avec M. Orban et le soutient, ou en tout cas veut bénéficier de cette dynamique dont je vous parlais, cette dynamique des patriotes qui sont en train de prendre le pouvoir en Europe. Et là, au Parlement, quasiment la majorité, et d'ailleurs la grande majorité de ces députés européens, ont voté soit pour les sanctions, ou soit se sont un peu lâchement obtenus. Ce qui revenait finalement à voter pour les sanctions dans le des comptes arithmétiques à Bruxelles. Donc il y a une schizophrénie absolument sidérante de M. Wauquiez entre ce qu'il dit et ce que font ses élus, à trois exceptions près. Schizophrénie ou peut-être tout simplement une forme de lâcheté politique, voire même de manipulation. Et je pense que les sympathisants de droite, puisque vous parliez de la droite dans votre question, en ont un peu marre justement de ces dirigeants qui remontent le col dans les médias et qui, après, quand il s'agit de voter et d'être dans les actions concrètes, font exactement le contraire.
Pour vous, Orban est aujourd'hui devenu un marqueur au niveau de la droite française et de la droite européenne ?
C'est un marqueur au niveau européen, puisqu'il incarne finalement la résistance face à la submersion migratoire qui est en train d'organiser l'Union européenne, à notre avis. Et en tout cas, il explique que selon lui, et en tout cas c'est le désir de son peuple, la Hongrie n'a pas vocation à avoir ses frontières ouvertes à tous les vents. C'est son choix, et à notre sens, à Debout la France, c'est son droit que de le décider, surtout lorsqu'on est élu démocratiquement. Donc oui, c'est un marqueur entre ceux qui respectent les choix démocratiques des peuples, qui veulent tout simplement se protéger. Il ne s'agit pas d'ailleurs entre nous de fermer les frontières et de devenir un pays replié sur soi, mais c'est un marqueur entre ceux qui veulent décider de leur destin et ceux qui, comme les Républicains en France, il faut le dire malheureusement, sont totalement désormais soumis aux politiques Bruxelles. Pour autant, pour conclure, il ne s'agit pas pour la droite française de se jeter dans les bras d'Orban. Il ne suffira pas pour gagner, notamment en France, pour reprendre le pouvoir en France, nous à droite, il ne suffira pas de se jeter dans les bras d'Orban ou des Autrichiens ou de je ne sais qui, de Salvini par exemple. Il faudra construire un véritable rassemblement en France de tous les patriotes, et c'est ce rassemblement qu'il faut construire, notamment en vue des élections européennes.
Justement, ça c'est la position de Debout la France, c'est véritablement l'union de toutes les droites.
Oui, au-delà des droites, d'ailleurs l'union de tous les patriotes, puisque moi je connais beaucoup de patriotes sincères qui viennent de la gauche, et Jean-Pierre Chevènement est un modèle pour moi, mais cette union-là...
Et Marine Le Pen est un modèle pour vous aussi?
Non, Marine Le Pen n'est pas un modèle. En revanche, Marine Le Pen, elle est la présidente du Rassemblement National. Et à ce titre-là, elle représente, elle porte la voix de, au second tour, plus de 10 millions de Français.
Damien Lempereur, pardon, merci d'avoir été l'invité de France Culture. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Debout la France. Lundi, Jean-Michel Blanquer avait annoncé 1800 suppressions de postes au sein de l'éducation nationale. Le ministre n'avait pas précisé qu'il s'agissait en fait d'un solde. Le ministère s'en est chargé aujourd'hui et il apparaît que l'enseignement secondaire sera particulièrement touché. Alexis Morel.
Le collège et le lycée vont bien concentrer les suppressions, avec 2600 postes de profs en moins l'an prochain dans le public. À cela s'ajoutent 600 suppressions dans l'enseignement privé et 400 dans les services administratifs des établissements. Dans le même temps, 1900 postes seront créés à l'école primaire. Jean-Michel Blanquer le répète depuis la rentrée, il veut mettre le paquet sur les petites classes, poursuivre le dédoublement des CP-CE1. Ces choix budgétaires en seraient donc la traduction. La priorité aux primaires au détriment du second degré. Au collège, au lycée, on craint des classes surchargées avec ces postes en moins. Pas d'inquiétude, répond le ministre. Ce sera compensé par les heures supplémentaires, selon lui. Il veut inciter les enseignants à en faire davantage. L'équation va tout de même rester compliquée alors que le nombre d'élèves doit continuer d'augmenter dans le secondaire jusqu'en 2022.
Le temps demain, chaud et ensoleillé sur la plupart des régions. Seul le quart nord-ouest sera sous les nuages. Température minimale de 10 à 22 degrés de la Manche à la Méditerranée. Pour les maximales, comptez de 21 à 33 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.